que nous avions vu dimanche dernier. Et vu qu'il y avait pas mal d'absents, bon, beaucoup étaient à une convention. D'ailleurs, ils donneront un compte-rendu bientôt. Aujourd'hui encore, il y a une délégation de l'Église qui est sur Voiron pour le séminaire « Attiser les flammes du réveil ». Donc, ils vont revenir ce soir. Donc, c'est bien, c'est une Église qui bouge. Il y a des délégations qui partent dans tous les sens chaque dimanche. Mais mon cœur, ça serait de reprendre certaines données de dimanche dernier. Excusez-moi si c'est une répétition de la première partie. Et dans une deuxième partie, aller plus loin. Et je crois vraiment que c'est le message que Dieu nous donne pour lancer l'année et pour donner une compréhension peut-être de nouvelle de la vision que Dieu nous donne et de la responsabilité qu'il nous confie. Alors, c'est l'exemple de la réforme de Josias. Et on reprend, si vous voulez bien, 2 Chroniques, chapitre 34. 2 Chroniques, chapitre 34. Alors, on va le relire encore. Je vais reprendre les points de dimanche dernier et on va en aller voir plus. Je crois que tout est lié. Ce que nous sommes en train de vivre actuellement en tant qu'Église est tout à fait lié avec le réveil de Josias que l'on veut lire avec des yeux nouveaux. L'Ancien Testament est une ombre des choses à venir. Et quand on lit l'Ancien Testament avec les yeux prophétiques, on comprend une application pour aujourd'hui. Et c'est le but de cette lecture ce matin. 2 Chroniques 34. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Pendant 8 années de son règne, comme il était encore jeune, il se mit à rechercher le Dieu de David son père. Et la 12e année, il se mit à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux d'Akéra, des statues, des idoles de métal fondu. On renversa devant lui les autels de Baal, il abattit les obélisques qui étaient au-dessus, il brisa les poteaux d'Akéra, les statues et les idoles de métal fondu, il les réduisit en poussière, il répandit la poussière sur les tombes de ceux qui leur avaient été sacrifiés, il brûla les ossements des sacrificateurs sur leurs autels, c'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Et dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon, jusque dans Nephtali, parmi leurs ruines, tout alentour, il renversa les autels. Il mit en pièces les poteaux d'Akéra, les statues, les réduisit en poussière. Il abattit tous les obélisques dans tous les pays d'Israël, puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, pour purifier le pays et le temple, il envoya Shaphan, fils d'Astayahou, Massayahou, chef de la ville, et Yoa, fils de Yoaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur, Hildikia, et l'on donna l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu, et que les Lévites, gardiens du seuil, avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm, et de tout le reste d'Israël, ainsi que de tout Juda et de Benjamin, et ils revinrent à Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui avaient la responsabilité de faire l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Ils le donnèrent à ceux qui faisaient l'ouvrage, travaillant dans la maison de l'Éternel pour consolider, réparer la maison. Ils le donnèrent aux artisans, aux constructeurs, pour les achats de pierres de taille, les bois destinés aux assemblages, ainsi que pour charpenter le bâtiment qu'avaient détruit les rois de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous la responsabilité de Yabat, d'Abdias, Lévite, d'entre les fils de Merari, de Zacharie et de Mekoulam, d'entre les fils de Kehatit, chargés de la surveillance. Ces Lévites étaient tous d'habiles musiciens. Ils s'occupaient des fardeaux, ils surveillaient tous ceux qui faisaient l'ouvrage, chantier par chantier. Il y avait encore d'autres Lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Quand on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par l'intermédiaire de Moïse. Alors Hilkija prit la parole et dit à Shaphan le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi, lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont versé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel en le remettant entre les mains des responsables et de ceux qui font l'ouvrage. » Shaphan, le secrétaire, fit encore ce rapport au roi. « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. » Puis Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Le roi donna cet ordre à Hilkija, à Alkiam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire, à Azaïa, serviteur du roi. « Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la fureur de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont pas observé la loi de l'Éternel pour agir selon tout ce qui est écrit dans ce livre. Ilkija et ceux qui avaient désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalum, fils de Tokiat, fils de Hazar, gardien des vêtements. Elle habitait Jérusalem. Donc, on s'arrête juste là. Un premier temps, c'est un rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. J'aimerais vraiment dire, dans mon esprit, je sens que c'est vraiment un texte pour aujourd'hui, d'actualité, qui nous parle vraiment très précisément. Nous avons dans ce texte les clés pour le début d'une réforme. Nous avons la réforme de Josias, c'est une réforme qui a touché tout le culte et tout le pays entier d'Israël. Et elle a commencé pas n'importe comment, cette réforme. Nous avons, en tant qu'Église, nous avons la certitude que Dieu a pour nous, devant nous, une nouvelle réforme, et pas seulement un réveil, mais quelque chose de plus important. Et pour cela, il y a des ingrédients dans ce texte qui nous parlent pour aujourd'hui. Quelques grands principes. Josias a vécu un long processus de recherche de l'Éternel, personnel, avant que le réveil n'éclate. Il a été roi à 8 ans. Je crois qu'on rentre dans des temps où les enfants et les jeunes vont prendre place de roi et de reine. Il chercha Dieu de son père, le Dieu de son père. Hein, puis à la 12e année, il commença à purifier le pays. Il a imité les voies de son père. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Il a imité les voies de son père. Il n'y a pas de réveil sans personne à imiter. Nous avons bien sûr que Jésus est à imiter, modèle par excellence. Mais nous avons besoin, nous-mêmes, adultes ici, d'être des modèles pour la génération d'après, parce que la marche avec Dieu commence toujours par des modèles visibles et charnels. Et ces modèles-là, ils aident. Il a dit, je vais marcher dans les voies de mon Père. Voilà un peu ce que nous voulons être. Nous voulons être des pères et des mères pour que les enfants qui suivent, ils marchent dans les voies. L'apôtre Paul disait, imitez-moi. Il n'a pas dit, imitez Jésus. Étonnant. Et dans la parole, on l'a vu la dernière fois, il y a de nombreux versets. 1 Corinthiens 11, 1, Philippiens 3, 17, 1 Thessaloniciens 1, 6, 2 Thessaloniciens 3, 7, 2 Thessaloniciens 3, 9, qui disaient chaque fois ceci, nous avons voulu être pour vous un modèle. Soyez nos imitateurs, etc. Donc il y a ici un principe au niveau d'une réforme. On a besoin dans ce pays d'hommes et de femmes qui soient des modèles. Ça ne veut pas dire être parfait. Mais ça veut dire être des gens qui inspirent dans la façon qu'on a de marcher, d'exercer notre foi, de pratiquer notre prière, etc., qui inspirent les autres qui viennent. Donc ça, c'est tellement important. Et puis, on voit que le déclenchement du réveil s'est fait une fois que la maison de l'Éternel était en train d'être réparée et restaurée. La maison de l'Éternel, ce n'est pas des briques, ce n'est pas du ciment d'abord, mais c'est bien sûr des pierres vivantes. Nous sommes tous des pierres vivantes, mais il n'y a pas de réveil possible sans restauration de cette maison-là. Et c'est comme si Dieu en ce moment était en train de pousser un peu, d'accélérer un peu le processus, en disant, il secoue un peu, rappelez-vous la parole qu'a donnée Isabelle en début de ce culte, nous en sommes dans des temps où Dieu dit, maintenant lâche les derniers domaines, là que tu tiens encore, lâche, lâche, lâche. Et on verra un peu tout à l'heure comment ça se passe tout ça. Le réveil de Josias, ça s'est fait progressivement. Ça ne s'est fait pas d'un seul coup. Il y a plusieurs étapes, et ces étapes sont extraordinaires. Mais vous allez voir, c'est des étapes. Purification du cœur de Josias, purification extérieure. Purification intérieure, purification extérieure. Il n'y a aucune réforme extérieure sans réforme intérieure d'abord. Et ça se fait petit à petit. Et ce mouvement de va-et-vient, toucher le cœur de Josias, toucher le pays, toucher le cœur de Josias un peu plus fort, toucher le pays, c'est comme ça que Dieu travaille. Et si nous laissons nos cœurs être touchés profondément, eh bien automatiquement à l'extérieur, il va y avoir un impact. Mais ça commence toujours par le cœur. Ensuite, on voit que ce mouvement de réformation a été accompagné d'un mouvement de sainteté. Un mouvement de sainteté sans précédent. Et vous savez, la sainteté, il n'y a pas de sainteté sans avoir rencontré l'amour de Dieu et sa grâce. Nous ne sommes pas là, comme disait David à la louange, ce n'est pas par nos efforts qu'on va être saint. Mais ce que Dieu demande pour nous, la partie d'effort, c'est de se mettre dans la position où Dieu veut et peut nous toucher. dans la position. Seigneur, je viens devant toi. Et là, c'est notre effort. Mais Seigneur, transforme ma vie. Et là, c'est le sien. Voyez, donc cette dynamique-là est importante. Quand on vient à des tabernacles, quand on vient pour louer, comme on va le faire la semaine prochaine, ça demande un certain effort. Parfois, et ça demande, c'est notre part. Seigneur, me voici. Ça, c'est notre part. Et ensuite, Dieu, il fait le reste. Cette réformation, on voit, il y a le roi Josias qui travaille avec les sacrificateurs et qui travaille avec les prophètes. On voit, ce n'est pas un homme tout seul. Ce n'est pas un one-man show, cette réforme. Mais c'est une complémentarité des ministères qui travaillent ensemble. Le roi avec le prêtre et avec les prophètes. Et pas seulement ces gens-là. Vous avez des secrétaires. Vous avez les gardiens du temple, les portiers. Vous avez une infinité de ministères. On ne rentre pas dans le détail, mais dans l'Ancien Testament, vous savez, dans le temple, dans la gestion du temple, il y a une infinité de ministères. Et tous ces gens-là, quand ils sont à leur place, la réforme, elle peut venir, le réveil peut venir. Le réveil ne vient jamais avec seulement des prédicateurs. Le réveil ne vient jamais avec seulement des intercesseurs. La réforme ne vient jamais avec seulement la loi. Et cette loi, ils l'avaient perdue de vue depuis longtemps. Et au moment où ils apportent l'argent pour vraiment restaurer la maison de l'Éternel, eh bien, il y a la redécouverte de la loi. Il n'y a aucune révélation possible dans la maison de Dieu qui ne soit pas accompagnée de la seigneurie de Jésus-Christ, même dans le domaine financier, et en particulier dans ce domaine-là. Et vous savez, c'est là qu'on voit, hein, c'est quand on n'a plus, quand on est dans le rouge, quand ça ne va plus, où est notre foi ? Et c'est là que ça touche. Vous savez, il y a des moments où Dieu nous dit maintenant, tu amènes à l'autel. Il y a des choses que l'on garde, sur lesquelles on veut garder le contrôle. Et Dieu est en train de pousser en ce moment pour dire maintenant, plus de contrôle. C'est fini le contrôle. C'est moi qui veux contrôler. Et il y a des choses, vous savez, quand on est dans la louange, que tout va bien, tout ça, on dit tu es Seigneur, tout ça, et c'est super. Et tout d'un coup, il touche à nos finances et il n'y a plus de contrôle possible. Et alors là, on voit où on en est. Vous savez, c'est toujours là où on voit. Et alors, mais ce n'est pas Dieu qui nous... Vous voyez, c'est un bon père. Il permet ça pour dire, maintenant, tu lâches. Tu lâches. L'image que j'ai ce matin, c'est simplement l'image d'une main qui s'ouvre. Seigneur, blanc, je lâche. Josias, il a lâché. Il a lâché. Les grandes réformes dans ce pays sont venues avec des gens qui ont lâché leur vie et le contrôle sur leur vie. Et sur tous les domaines. Mais ça, c'est pas une mauvaise nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Parce que quand on lâche, lui, il prend. Et alors, c'est tellement mieux. Alors ensuite, on voit que cette réforme, elle est menée avec une organisation vraiment précise. Moi, je suis étonné de voir l'organisation décrite dans ce chapitre. Vous savez, personne faisait ce qu'il voulait vraiment. Mais il y avait vraiment chacun à sa place, chacun faisait son travail. Il y avait une soumission mutuelle, c'est assez incroyable. Dieu, il a devant nous, pour l'Église Josué ici, un effort de structure dans les temps qui viennent qui va être très important et qui va demander, qui va être le fondement nécessaire aussi aux choses que Dieu a devant nous. Et donc ça va demander plus d'ouvriers, plus de compétences, plus de précision, plus d'ajustement, etc., dans ce corps-là. D'autres aspects que je voulais relever, donc l'aspect du modèle, l'aspect de Josias qui s'est laissé purifier. Et moi, ce qui m'étonne chez lui, c'est qu'il se laisse purifier par Dieu, reprendre par lui, et tout d'un coup, il y a une passion pour sa maison qui vient. C'est étonnant. Moi, je peux vous dire une chose. Le signe que Dieu touche nos cœurs, c'est quand il y a une passion pour son Église qui revient. Et je ne parle pas ici de la passion pour son ministère. Je parle ici d'une passion pour son Église. Voyez ? Et ça, c'est le signe qu'il y a un travail dans notre cœur. Et Josias, étant travaillé par Dieu, après toutes ces années de recherche, vouloir imiter son père, marcher dans ses voies, ensuite rechercher le Dieu de son père, des années. Et ensuite, petit à petit, une passion pour... Il faut réparer cette maison. On voit que tout va bien quand nos yeux ne sont pas ouverts. Mais quand Dieu commence à ouvrir nos yeux sur nous-mêmes, on commence à voir les choses qui ne vont pas bien. Hein, ça c'est, ouais, on a besoin de ça. Ce n'est pas pour nous écraser, mais c'est pour nous faire avancer. Alors, voilà, on s'approche de Dieu et on se sent plus pécheur qu'avant. Et bien ça, c'est normal. C'est normal. C'est le processus normal. Et on sent les immenses besoins pour la communauté. Et vous savez, il y a des gens qui disent, ils sont là, oh, la société, elle est pourrie, tout ce péché, tout ça. Je peux dire un truc, ce n'est pas ça qui fait avancer le corps de Christ et la vision. Hein. Ce qui fait avancer, c'est quand tu dis, Seigneur, que je suis pécheur. Fais grâce, Seigneur. J'en peux plus de moi-même. Et alors, je dépose, Seigneur. Et en même temps, il y a cette œuvre de grâce qu'on voit chez Josias, extraordinaire. Josias a été conscient du péché du pays et de son péché. Mais ça ne l'a pas écrasé. Ça ne l'a pas écrasé. Au contraire, il s'est dit, il faut qu'on se relève. Il faut qu'on marche avec le Seigneur. Il nous faut connaître ce Seigneur. Alors, vous savez, ensuite, on voit le culte de Baal. On l'a dit la dernière fois, c'est encore un rappel. Le dieu Baal, ça nous parle des dieux du pays. Les dieux du pays, les dieux de la France, c'est quoi ? C'est des dieux particuliers. Et Josias, il a commencé à s'arracher de cette influence du culte de Baal. On a dit la dernière fois, en France, c'est l'humanisme. C'est notre raison qui veut tout contrôler. C'est ça, nos dieux en France. Et ça, ça doit tomber. Donc, on va rentrer dans des dimensions de foi et de non-contrôle, mais qui vont permettre la bénédiction de Dieu. On va rentrer aussi dans quelque chose de l'ordre. Et vous savez, l'Église, et je le disais la dernière fois, ce n'est pas un supermarché. Alors, bien sûr, dans le temple, autrefois, vous aviez le parvis, et tout le monde était bienvenu dans le parvis. Les apôtres du Nouveau Testament, ils enseignaient dans le parvis du temple. Et tout le monde était bienvenu. Mais dans le temple, il est dit, dans beaucoup de passages, il est dit, dans le temple, il y a une sainteté qui est demandée. Dans le temple, il y a l'Église, c'est une affaire de famille. Et dans une affaire de famille, on l'a souligné la dernière fois, eh bien, il y a des devoirs, il y a des droits. On n'est pas obligé de dire, moi, je veux faire partie de la famille. Mais quand on fait partie d'une famille, il y a une intimité, il y a une proximité, il y a des droits, il y a des devoirs. Il y a un engagement, si vous voulez. Ce n'est pas je me sers et puis je m'en vais. C'est vraiment je donne, Seigneur. Je prends, je donne. Vous savez, il y a cette dimension qui est là, qui est très importante. Nous sommes dans une culture où le Dieu de ce siècle, c'est l'individualisme. Et l'Église qui vient, c'est une Église où l'individualisme, il est tombé, il meurt. Et on dépend les uns des autres. Tout ça, on le voit ici dans ce texte-là. Et on voit un détail, je souligne encore, je rappelle, c'est dans le verset 10 à 13. Il fait appel pour le travail, il fait appel à deux catégories de familles. Il fait appel aux Lévites, fils de Merari, Zacharie et Meshulam, et les fils des Kéatites. Ça nous fait, c'est la référence au tabernacle de Moïse. Le tabernacle de Moïse, Moïse a une révélation du culte qu'on doit donner à Dieu. Et ce culte était basé sur des sacrifices d'animaux qui étaient à faire. Et jour après jour, on faisait des sacrifices à Dieu. C'était une bonne odeur. Et ça purifiait le peuple. Et c'était les lois de Moïse. Ça nous parle des lois de Moïse. Mais ensuite, il y a eu David. Et David, il a vu qu'on pouvait adorer Dieu avec les instruments, la musique, la liberté. On pouvait rentrer dans le tabernacle. Tout le monde était le bienvenu. Et on dansait, on chantait 24 heures sur 24. Ça, c'est David. Mais vous comprenez, parfois, aujourd'hui, nous avons les partisans du tabernacle de David, c'est-à-dire liberté dans la louange, adoration, exultation, et on oublie parfois le tabernacle de Moïse, la loi de Dieu, le sacrifice de soi-même, l'obéissance que ça doit donner. Il y a une bonne odeur que Dieu aime. Il est dit dans la Bible que lorsque les sacrifices d'animaux, qui préfigurent le sacrifice de Jésus bien sûr, étaient donnés, c'était une bonne odeur pour Dieu. Et ça préfigure quoi ? Ça préfigure notre sacrifice aussi. Je peux te dire une chose, c'est que quand ta chair à toi, nos mauvaises habitudes, nos petits égoïsmes, tout ça, quand on la porte à Dieu, ça brûle. D'accord ? Et quand ça brûle, il y a une odeur. Et cette odeur, elle monte à Dieu, et pour Dieu, ça sent bon. Donc ta chair qui brûle, ça sent bon pour Dieu. C'est dur, hein, ça. Mais ça sent bon. À qui c'est pas arrivé? Si tout le monde ici a vécu ça, il y a un moment, il y a un truc que Dieu nous demande et il dit lâche ça maintenant. Eh bien, on veut pas. On veut pas. On dit c'est pas si grave quand même. Et puis, et il nous tracasse, il nous persécute le Seigneur. La grâce, elle nous persécute. Hein. Et puis alors, on accepte de lâcher. Et là, c'est une odeur qui monte à Dieu. Et c'est agréable. Et il y a une liberté et il y a une joie qui viennent, qui sont formidables. Donc, nous avons besoin des gens du tabernacle de Moïse et du tabernacle de David. Gardons l'ancien. L'ancien, c'est la tradition judaïque aussi. C'est tout ça, l'ancien. C'est nos racines. On garde l'ancien, on prend le nouveau, tabernacle de David, etc. Et on rentre dans une réforme. Il n'y a pas de réforme possible sans avoir pris l'ensemble du conseil de Dieu pour la maison de Dieu. Voilà ce que ça veut nous dire, ces quelques versets. Et puis ensuite, rapidement, toujours, on l'avait vu ensemble, par rapport à et regardez ce qu'il lui dit. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. J'aimerais vous dire que Dieu ne regarde pas seulement nos prières, il regarde nos offrandes. Et le Corneille, là, c'était pas un chrétien né de nouveau, dans le sens biblique du terme. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, rien du tout. Hein. Mais Dieu a vu son cœur. Et je crois que Dieu, il veut nos cœurs tout entiers. Voyez. Alors, dans cette réforme qui vient, eh bien, il y a besoin de cœurs qui soient entiers. Et nous avons ensuite une sorte de chose étonnante. On voit que les gardiens du temple, ils étaient participants de ce réveil. Dieu veut faire de nous les gardiens de nos frères, les gardiens du temple aussi, et veut faire de nous des portiers dans le sens que ceux qui rentrent ici, ça soit seulement ce que Dieu veut qu'ils rentrent et ce qui sort aussi. Voyez, il y a des temps, ce qu'on vit par exemple dans les tabernacles, les profondeurs dans lesquelles on est rentré déjà en tant qu'église. Excusez-moi, mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Il y a des choses dans le parvis où c'est pour tout le monde. Mais il y a des choses que l'on vit dans le secret, dans l'intercession, en tant que famille ici. C'est pas pour tout le monde. Parce que sinon, on pourrait facilement se moquer, dire mais c'est quoi ces gens, mais qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Et donc je crois que dans les temps qui viennent, pour cette église ici, il y a une carence que je détecte, c'est au niveau du parvis. Des œuvres du parvis. Les œuvres du parvis, par exemple, c'est les cellules où tout le monde est le bienvenu pour apprendre à connaître Jésus, à connaître sa parole. C'est les cours alpha. Et j'aimerais faire une annonce ici. Si quelqu'un se sent de se former pour lancer des cours alpha, c'est-à-dire une méthode pour toucher ceux qui ne connaissent rien à la Bible, mais pour ouvrir une cellule avec un esprit interdénominationnel, eh bien ça, ils sont les bienvenus. Nous avons besoin des choses comme ça, vous voyez, qui sont des choses du parvis. L'évangélisation, c'est aussi le parvis. L'étude de la parole, l'enseignement, fait aussi partie de ce parvis. Vous voyez, on voit ici qu'il y a l'église, le portique, la rue, et ces dimensions, on veut les retrouver. Et maintenant, c'est là qu'on veut aller maintenant plus loin par rapport à la dernière fois, et on va trouver dans 2 Chroniques 34, verset 31, et c'est là qu'on prend la suite. Le roi se tenait sur son estrade, il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel, à observer ses ordonnances, ses préceptes, ses lois, de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Josias, le roi Josias, lui-même, il a fait alliance. Il ne dit pas à son peuple, il faut que vous fassiez alliance. Lui-même a commencé. Et je crois que dans notre pays, c'est l'Église qui doit montrer le ton et qui doit commencer elle-même à faire une alliance avec Dieu comme jamais elle a fait. Et cette royauté, parce que nous sommes une race royale, nous dit la Bible. Nous sommes une race royale. En tant que roi, nous devons montrer l'exemple en faisant nous-mêmes alliance, en étant un peuple de l'alliance. Et un peuple de l'alliance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un peuple lié. Alors vous allez me dire, oui, mais notre boulot, c'est de délier les gens. Eh bien, le boulot du Saint-Esprit, excusez-moi, c'est de te lier à lui et de te lier à la famille qu'il a pour toi. Et c'est un travail de lien que Dieu veut faire, et c'est ce travail de lien, d'alliance, dans tous ces termes-là, qu'il veut nous faire, dans lesquels il veut nous faire rentrer. Une alliance pour lui-même, et ensuite il a eu l'autorité pour faire rentrer tout le peuple. Et vous voyez, Josias, il était conscient d'une obéissance précise, non pas approximative. Regardez le verset qui dit « Observez, ordonnance, précepte, loi ». Trois termes différents, on ne va pas rentrer ce matin, je l'avais déjà enseigné là-dessus, mais il y a une différence entre les trois. Mais c'est quoi la différence ? La loi de Dieu, elle est précise. Elle est précise. Et je crois qu'il nous faut rentrer dans une nouvelle précision de l'ordonnancement de Dieu. Le corps de Christ, c'est quelque chose de précis. Il y a des yeux, il y a des bouches, il y a des doigts, il y a des... Tout est précis. Et je crois que souvent, on est un peu là dans le vague, parfois. Et ce n'est pas grave, mais Dieu veut nous dire, voilà, maintenant je veux rentrer, que tu rentres dans une nouvelle précision. Josias a montré l'exemple. Les pharisiens, eux, ils faisaient porter des choses sur les gens qu'ils ne pouvaient même pas porter eux-mêmes. Alors, il est évident qu'ils n'avaient pas de possibilité de faire rentrer le peuple. Hein. Matthieu 23, 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Et là, j'aimerais parler à tous ceux qui ont une responsabilité, et nous en avons tous, en tant que père, en tant que mère, nous avons tous, en tant que chantre dans la louange, musicien ou autre. Ce que nous ne vivons pas nous-mêmes avec Dieu, ce que nous ne voulons pas vivre avec Dieu ou laisser à Dieu, non seulement ça nous affecte nous, mais on empêche les autres d'entrer. Les pharisiens, ils empêchaient les gens d'entrer dans les choses de Dieu. Comment ? Pas en disant « stop, on n'entre pas », c'est pas comme ça. Mais c'est parce que leur cœur n'était pas à Dieu. Et du coup, tous les gens qui suivaient, ils ne pouvaient pas entrer dans les choses de Dieu. Et ça, ça nous fait réfléchir. Ma vie personnelle, je suis appelé à être une porte pour mes enfants, pour mes amis, pour mes collègues de travail. Je suis une porte. Et peut-être je peux empêcher les gens de rentrer, ou alors je peux être une porte qui donne envie de rentrer. Donc ça, c'est la question d'une porte est vraiment, vraiment importante. Ensuite, je crois que on a ce qui se passe dans notre intimité avec Dieu, eh bien, a des répercussions dans toute l'Église. Par exemple, le tabernacle prochain que nous aurons, on a le choix. Ou on vient, comme je dirais, à froid, sans s'être préparé, tout ça, et puis bon, ça sera bien, mais Dieu nous demande d'être des sacrificateurs sérieux. Et c'est-à-dire d'être des gens comme Josias, qui se préparent. Des gens qui se préparent. Et voilà là, une des clés du réveil de Josias. Alors, l'obéissance nouvelle de Josias entraîne une purification nouvelle dans le pays. Et cette purification nouvelle dans le pays entraîne un autre degré d'obéissance. Et c'est comme ça que les choses vont changer. Et la suite du livre de Josias, elle se trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 23. Nous avons le livre de Josias, vous savez, l'histoire de Josias se trouve dans les deux livres de la Bible, dans les Chroniques, mais aussi dans le livre des Rois. Et le livre des Rois, contrairement au livre des Chroniques, il va insister davantage sur la dimension du péché. Le livre des Chroniques nous parle plus des victoires, c'est plus optimiste. Le livre des Rois souligne beaucoup plus le péché du pays et du peuple. Alors, on lit dans le deuxième livre des Rois, donc c'est le chapitre 23. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda, de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda, tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes, tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade, il traita alliance devant l'Éternel en s'engageant à suivre l'Éternel, à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans le livre. Et tout le peuple entra dans l'Alliance. Vous voyez, ça c'est étonnant. Tout le peuple est rentré dans l'Alliance. Et des versets 4 à 7, il est dit qu'il va renverser les idoles. Et dans les idoles, nous avons Baal. Donc Baal, c'est le dieu du pays, on l'a déjà dit. Et nous avons aussi Astarté. Alors c'est quand même étonnant de voir dans la maison de Dieu, à l'époque de Josias, il y avait l'idole d'Astarté, il y avait des maisons de prostituées sacrées, et le culte d'Astarté, c'était des prostituées, hommes ou femmes, qui, au travers de relations sexuelles, disaient adorer Dieu. Et ça, ça se passait dans la maison de Dieu. Et alors, on se dit, mais quand même, c'est terrible, après des années de règne, qu'il y a encore ça dans le temple. Et alors, on se dit, bon, nous, ça ne nous concerne pas. Eh bien, je dirais que nous, ça nous concerne. Ça nous concerne parce que, je veux dire, est-ce qu'on est exempt de toute impureté? Est-ce que nous sommes exempts de toute convoitise? Est-ce que nous sommes exempts de toute relation sexuelle extra-conjugale? Le culte d'Astarté, c'est tout ce domaine-là. Il est dans l'Église aussi. Et Dieu voudrait... Il n'est pas là pour nous condamner aujourd'hui, mais il est là pour nous dire, voilà, maintenant, fille de Sion, délivre-toi toi-même. Lâche maintenant ces choses et rentre dans une dimension de sainteté. Parce qu'en fait, au travers de ces choses, eh bien, nous adorons une déesse Astarté. Alors nous, mais non, j'adore pas, Seigneur, quand même. Mais si, c'est un culte à Astarté que l'on donne. Par exemple, dans Lévitique 18, il est dit « couvre ta nudité ». Il est question des parents, de couvrir leur nudité par rapport à leurs enfants. Moi, je peux vous dire, j'ai discuté dans des pastorales avec des gens qui disaient « c'est normal de se trimballer tout nu en famille ». Et actuellement, dans l'Église, on voit en particulier en Allemagne ou dans le pays du Nord, je peux vous dire, c'est la grande vogue actuellement. C'est la nature. Dieu nous a fait, on revient à la nature, si vous voulez. Et ça, ça rentre. Eh bien, ça, c'est pareil. C'est tout un culte bizarre qui est à Astarté. Et ça, ça coince au niveau de l'Église entière. Donc voilà, ce culte d'Astarté est dénoncé par Josias. Il a renversé tout ça. Et dans 2 Rois 23, versets 8 à 10, maintenant, écoutez bien, il y a d'autres principes. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Geba jusqu'à Beersheba. Il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Himmon, afin que personne ne fît passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Alors là, il y a un grand principe aussi. Voyez, les gens, à cette époque, ils adoraient Dieu où ils voulaient. Alors, ils disaient, moi, je n'ai pas envie de monter à Jérusalem, donc je vais faire mon hôtel ici. Et Dieu a David dit, non, tout le monde à Jérusalem. Et des gens ont dit, non, on n'est pas obligé de se déplacer, on peut adorer Dieu partout. Alors, ce qui est dénoncé ici, dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous dit, tu peux m'adorer où que tu sois, en esprit et en vérité, bien sûr. Mais ce que Josias dénonce ici, c'est la privatisation du culte. Et ça, excusez-moi, mais c'est quelque chose de très en vogue aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est cette attitude qui nous fait croire, moi, j'offre mon culte à Dieu comme je veux. Comme je veux, nous sommes libres, nous sommes tous des enfants de Dieu, tous des sacrificateurs, je fais ce que je veux. Alors, si quelque part ça ne me convient pas, eh bien, je vais offrir mon culte à Dieu comme je l'entends. Alors, bien sûr, on a tous un culte à Dieu personnel à faire. Mais voyez, ce que je veux souligner ici, c'est que l'Église du Christ dans ce pays, ce n'est pas comme on veut partout. Ce n'est pas comme ça. Et le culte que l'on veut rendre à Dieu, on a besoin de retrouver la dimension collective nécessaire au culte que l'on veut rendre à Dieu. Et sortir d'une dimension seulement individualiste. Alors, combien de gens, et j'en connais combien de gens aujourd'hui, des gens qui aiment Jésus, qui sont vraiment convertis, mais combien il y en a qui sont en rade? Et parfois, parce qu'on leur a fait du mal, on les a jugés, ils sont blessés, ils sont au bord de la route, et si vous voulez, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie du corps de Christ qui est sur la touche, et qui essaye, dans le lieu privé, d'adorer Dieu. Mais Dieu voudrait qu'on l'adore au niveau familial, tous ensemble, et retrouver cette dimension familiale. Et je pense que là, il y a des blessures qui doivent être guéries, il y a un accompagnement qui doit être là. Mais je vous conjure à chacun, sortons de cette privatisation du culte. Si pendant un temps on est bousculé, on se retrouve tout seul, c'est pas grave, mais ne restons pas comme ça. Et vraiment cherchons, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi ? qu'est-ce que tu as pour moi ? Voyez, attention à la privatisation, à faire ce qu'on veut. C'est ça que je veux souligner. C'est vraiment important. Moi, quand je viens au culte ici, je peux vous dire, moi j'ai besoin, quand un David il loue, eh ben, j'ai besoin de cette louange, j'ai besoin de ceux qui mènent la louange pour ma vie personnelle. Je suis dépendant de ceux qui sont ici. Je ne peux pas vivre et continuer ma vie de foi tout seul, en aucune manière. Et je sens, plus j'avance, plus je me sens profondément dépendant du corps, des uns et des autres, de l'amour, de la prière mutuelle et tout ça. Et plus j'avance, plus ça me semble invraisemblable de pouvoir vivre tout seul, surtout dans les temps qui viennent. Et par exemple, dans Deutéronome 12, 11, il est dit « Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes. » Et là encore, je veux dire, que Dieu nous dit, mais rien ne nous appartient. Attention à tout contrôle, à toute chose qu'on veut garder nous-mêmes. On revient au deuxième livre des Rois, 23, 10. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils d'Émon, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Ici, la version moderne de Moloch, c'est quoi ? C'est les sacrifices des enfants, c'est l'avortement, en grande partie. Et je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit qui aurait peut-être vécu ça, parce que Dieu pardonne et Dieu guérit. Mais ces choses-là, la version moderne, c'est l'avortement. Et Moloch, il tue non seulement les enfants dans le ventre de leur mère, mais ils tuent les jeunes par rapport à l'appel de Dieu qui est sur leur vie. Et même si tu es un chrétien fidèle, mais que tu n'es pas rentré dans la mission que Dieu a pour toi sur cette terre, tu as affaire à l'esprit de mort. Parce que Dieu a pour toi un ministère, un service. Et ce service est appelé à engendrer la vie dans ton église, là où tu es et dans ce pays. Et Moloch, il va tout faire pour empêcher cette vie du Christ de s'épanouir en toi. Et alors, malheureusement, même si nous n'avons plus d'avortement, il y a encore des avortements qui sont les avortements des ministères et des destinées que Dieu a. Je pense à tous les évangélistes qui ont été ou jugés, brisés et qui sont sur la touche. Je pense à... je sais pas, aux différents ministères qui sont là, qui sont morts aujourd'hui, qui ont baissé les bras, qui ont baissé les bras. Et là, je crois que cette œuvre de Moloch, elle est là aussi. Hein, elle est là aussi. Maintenant, on continue. On voit dans les versets 11 à 15 du chapitre de 2 Rois 23, on voit que Josias lui-même va abattre les faux autels. Il va souiller les hauts lieux, et on va remarquer que là, c'est lui-même qui va le faire. Pourquoi ? Avant, c'était les sacrificateurs qui aidaient. Maintenant, c'est lui. Pourquoi ? Parce que les rois précédents, eux-mêmes, avaient laissé la porte ouverte à d'autres autels, d'autres sacrifices, d'autres lieux. Il y avait une influence du monde politique dans l'Église. Salomon, par exemple, avec toutes les femmes et les idoles qu'il a adorées, c'était aussi par souci politique, d'alliance avec les peuples. Donc, ce mélange entre le politique et le religieux, eh bien, Josias l'a dénoncé. Vous voyez ? Et moi, je crois que nous ne sommes pas indemnes de ça. Et j'aimerais juste donner quelques exemples. Et je ne dis pas que j'ai la solution pour tout, mais nous avons quand même... Nous sommes, par exemple, dans un pays démocratique. Et moi, je dis que c'est le système le moins mauvais au niveau politique. Maintenant, au niveau de l'Église, la Bible ne me dit pas qu'il y a un système démocratique. Il y a une certaine démocratie, mais pas seulement. La Bible me dit, par exemple, il y a premièrement des apôtres, secondement des prophètes, etc. 1, 2, 3. Elle me parle de mesures d'autorité différentes. Et moi, j'aimerais, et je vous invite à prier, qu'on prie vraiment ensemble, pour que cet ordre de Dieu puisse venir dans notre Église et que ces faux schémas que Josias a dénoncés, qui nous viennent de notre culture, qui nous viennent de notre background, vous savez, eh bien, puissent tomber. Et qu'on puisse vraiment laisser le grand architecte bâtir son église comme lui, il l'a voulu. Donc il a détruit ce qui a été mal établi par l'autorité politique. Josias a détruit les faux fondements pour remettre les bons fondements. Et ça, c'est le début d'une réforme. Dieu touche toujours les fondements. Et actuellement, il touche les fondements de notre vie personnelle, mais il touche les fondements de notre vie collective. Et c'est pour ça qu'il ébranle les choses. C'est pour ça qu'il fait bouger les choses. C'est pour ça que tu es ébranlé peut-être. Que la situation de l'année passée, tout d'un coup, aujourd'hui, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui bouge. Professionnellement, spirituellement, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Dieu ébranle les choses pour mettre les bons fondements. Les bons fondements sont nécessaires, mais nous avons besoin qu'il dénonce les mauvais fondements. Il nous faut retrouver nos racines bibliques dans ce que nous faisons. Un autre exemple, par exemple. Imaginons, on dit, voilà, il faut que, la Bible dit, il faut prendre soin des veuves financièrement, tout ça. Là encore, on se trompe. On croit que tout le monde est pareil. La Bible a dit, par exemple, au niveau des veuves, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Et vous avez, 1 Timothée 5, 3 à 10, des conseils très précis sur qui c'est qui peut être soutenu financièrement et qui c'est qui ne peut pas l'être. Alors on se dit, mais c'est inégal. On va dire, mais c'est pas normal. Où est l'égalité? Eh bien, je peux te dire, on est tous égaux devant Dieu, mais il y a un ordre dans les choses de Dieu qui peut nous paraître un peu bizarre, mais qui est pourtant là dans la Bible. Et c'est étonnant. Moi, en relisant ces passages, je me dis, c'est étonnant. Il y a vraiment que Dieu nous aide et nous fasse grâce pour qu'on rentre dans une nouvelle réforme. Vous voyez. Ensuite, 2 Rois 23-21, le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu. Et là, c'est extraordinaire. C'est comme si Dieu nous disait, la Pâque, c'est quoi? C'est le retour aux éléments fondateurs de notre foi. La Pâque, c'est mort, résurrection de Jésus. La Pâque, c'est ça. C'est revenir aux choses essentielles de notre foi. Y revenir. Où est-ce qu'on en est avec ça? La justification, la sanctification, la foi. Après 10 ans, 15 ans de conversion, il est bon de revenir aux éléments essentiels de la foi, de les scruter avec une nouvelle profondeur, de les recevoir avec une nouvelle joie, avec une nouvelle dynamique, une nouvelle obéissance. Voilà ce qu'a fait Joseph. Une fête qui était perdue depuis des années, il l'a rétablie et c'était comme une colonne vertébrale pour toute la foi d'Israël. Fêter la première fête du pays d'Israël, qui était le premier mois, revenir à la première fête de l'année juive. Ça, c'est revenir au fondement. Vous voyez, c'est le premier signe d'un retour au fondement. Et ça, c'est la vraie réformation. Il n'y aura pas de vraie réformation sans un retour aux choses essentielles. Jésus, mort, ressuscité, pour nous, mais vécu avec une nouvelle profondeur, vous voyez, un sens retrouvé. Alors regardez, 2 Chroniques 35:1. Maintenant, on revient au chapitre des Chroniques et on prend la suite de l'histoire. 35:1. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Alors moi, je suis étonné. Quand je vois cette précision, je me dis, mais mince, alors on ne peut pas fêter quand on veut? Eh bien non. Eh bien non. Cette précision-là, moi je crois que nous sommes dans des temps où Dieu veut nous faire redécouvrir son calendrier. Vraiment. Par exemple, quand est-ce qu'on sème? Quand est-ce qu'on récolte? J'ai l'impression qu'actuellement, et moi je parle pour moi aussi, on fait tout toujours en même temps. On sème, on récolte, on moissonne. Vous voyez? Et en fait, on a besoin de saisir quels sont les temps. Quels sont les temps? Et je crois que ce sens des temps est important pour la maturation du peuple de Dieu. Les fêtes religieuses étaient négligées au temps de Josias. Retrouver la dimension des fêtes. Mais cette vraie dimension-là, alors là, je parle à des gens qui sont déjà sensibilisés, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose qu'on doit redécouvrir là. Par exemple, la fête de Pâques, important. La fête de Noël, exemple, on ne la voit pas dans la Bible. Hein, alors c'est bien de la faire. Mais je veux dire, ce ne serait pas juste qu'elle prenne toute la place, alors que dans la Bible, il y a des fêtes instaurées par Dieu tellement plus puissantes. Donc voilà, je me dis, Seigneur, montre-nous. On veut faire ce que tu veux faire. Le fait que Josias, dans cette réforme, ait remis en place les fêtes qui avaient été oubliées, ça ne m'étonnerait pas que dans l'Église, dans les temps qui viennent, on redécouvre la notion des fêtes que l'Éternel a mises au point comme moyen pédagogique, mais pas seulement comme moyen pédagogique, vous voyez. Redécouvrir s'est faite, redécouvrir ce qui a été caché et la dimension du Christ derrière. Alors, tout ça, ça nous parle de structure, voyez. Mais ce n'est pas une structure qui donne la mort, c'est une structure qui donne la vie. Et c'est ça dont on a besoin. Et ensuite, il est dit, dans les versets suivants, il a fait revenir l'arche. Tout, rendez compte, il a cherché Dieu, il a marché dans les voies de son Père, il a purifié les autels, le pays, il s'est laissé purifier lui-même, il a purifié à l'extérieur, il a fait alliance avec Dieu, il a purifié la maison de l'Éternel. Ensuite, il a cherché l'arche. Et l'arche, c'est la gloire de Dieu. L'arche, c'est la présence de Dieu. Il n'y a pas de présence de Dieu sans ce nettoyage au départ qui est là. Et vous savez, en Israël, ils ont cette merveilleuse fête de Yom Kippour où tout le peuple entier demande pardon, vient au Seigneur, se repent. Et en tant qu'Église, on va voir comment on va faire ça, mais je crois qu'au minimum chaque année, il y a un temps où il faut s'humilier. La parole prophétique qui est donnée par Vito ce matin, c'était « Humilie-toi devant Dieu ». Il me semble qu'il y a comme un Yom Kippour de Dieu qu'on doit vivre ensemble pour qu'on puisse vivre plus de gloire, plus de sa gloire. Ça, c'est tellement important. Et maintenant, versets 4 à 6, « Tenez-vous prêts, selon les maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David. » Et je termine par là. « Tenez-vous prêts. » Et ça, vraiment, c'est un appel pour chacun d'entre nous. Nous sommes dans une nouvelle saison. Nous rentrons dans un élargissement. Et je disais l'autre fois, l'élargissement physique que l'on vit correspond à un élargissement spirituel que nous sommes en train de vivre. Le fait que l'Église prenne une ancienne discothèque, ça nous dit ceci dans l'esprit, ça nous dit « je veux que vous touchiez la culture de votre nation ». Le fait que l'Église va s'occuper d'un restaurant, on ne sait pas encore comment, au secours Seigneur, help, hein, eh bien ça veut dire « je veux que vous donniez à manger ». À ceux qui sont autour de vous. Ce bâtiment au niveau physique parle d'une dimension spirituelle. Et quand hier nous avons abattu la cloison, nous avons travaillé, il y a une dimension spirituelle à ça. Il y a toujours un rapport pour Dieu entre le naturel et le spirituel. Et moi, il y a vraiment quelque chose qu'on va découvrir. Un restaurant, manger, une discothèque, se réjouir, la culture, la musique, tout ça. Mais tout ça, Dieu veut racheter tout ça. Et le lieu de culte au-dessus, bien sûr au-dessus, la chambre haute, hein, bien sûr. Et puis ensuite, au-dessus, on peut encore monter, on verra. Mais voyez, il y a vraiment quelque chose. Tenez-vous prêts. Et il est dit, tenez-vous prêts selon vos maisons paternelles. Alors là, je donne une dernière vérité, mais s'il vous plaît, soulignez-la, selon vos maisons paternelles. Trop souvent, on fonctionne comme des associations, des institutions. Mais l'Église de Dieu, c'est une maison paternelle. Et cette maison paternelle, il est dit que nous appartenons à cette maison au niveau relationnel, et c'est dans cette maison-là qu'il y a une transmission de vie. Jamais, aucun d'entre nous ne peut rentrer dans son appel de Dieu sans être enraciné dans une maison paternelle. Quelle est la maison à laquelle tu appartiens? Ça, c'est très important. Il n'y a pas de réforme sans une identité profonde dans un corps. À quel corps tu appartiens? Ça, c'est vraiment important. Vraiment important. Nous appartenons à une maison. Il y a une ADN. Alors, par exemple, moi, je bénis le Seigneur pour la variété des églises dans cette région. Chacune a une richesse, des richesses que nous n'avons pas. Et nous avons des richesses qu'ils n'ont pas. Mais l'important, c'est à quelle tribu tu appartiens. Et moi, je vous encourage à vraiment rechercher cela, et ceux qui sont indéterminés, ben, à prier le Seigneur pour ça. Mais voyez, ça c'est très important. Il y a une appartenance dans laquelle nous pouvons grandir. Alors voilà, l'appel de Dieu n'est jamais désincarné. L'appel de Dieu n'est jamais désincarné. Il est toujours enraciné dans un lieu. Aujourd'hui, on est très souvent désincarné. On est des chrétiens, vous savez, dans l'esprit. Alors, on voit les nations, on voit tout ça. Et Dieu dit, « Oh, ton appel, il est enraciné où ? Où est-ce que tu es planté ?» Parce que pour être une belle plantation, il faut être bien planté. Et ça, c'est la dimension qu'on voit. Josias, il y avait un ordre. Chacun avait une place selon les maisons paternelles. Que Dieu nous aide à être bien enraciné dans la maison qu'il a pour nous. Et vous savez, nos amis, là, je parle à Sandra et Christophe, avec leurs amis qui sont venus, et je vous avais dit la dernière fois que c'était une cellule, et ils cherchent un peu leur place, on veut vraiment prier pour vous. Et que le Seigneur, il vous mette là où c'est le meilleur pour vous, où ça corresponde à votre appel. Et en tant qu'Église, nous voulons simplement, dans cette période, vous entourer pour que vous puissiez être protégés jusqu'à ce... Vous êtes des gens qui faites la différence dans la petite ville là où vous êtes. Et il y a de bons projets pour vous. Et ça, c'est notre cœur, voyez. Soyons un peuple d'alliance. Soyons un peuple d'alliance. Alliance extra-locale avec les autres églises, mais alliance ici. Il faut que quand quelqu'un te rencontre, ils disent, mais toi, tu as une ADN, c'est l'ADN Josué, ça. Voyez ? Et c'est normal, ça. C'est normal. Il y a quelque chose. Il dit, mais comment il prie, ce gars-là ? T'es sûr que tu viens pas de chez eux, là ? Ben oui, mais c'est normal. On reconnaît celui qui est de la famille. Il a ses petits trucs, il a ses petits... Voilà, voilà. Alors, il y a un peu un côté charnel aussi, mais il y a un bon côté spirituel. Donc, il faut vraiment qu'on soit fiers de qui on appartient. Et puis, on va être bientôt complet, puisque l'association que l'on crée, je l'ai présentée la semaine dernière, c'est l'association Caleb. Eh bien oui, il manquait Caleb, Josué, il manque Caleb. Qu'est-ce que Josué peut faire sans Caleb ? Alors voilà, là, on commence bientôt à être au complet. Mais s'il vous plaît, vraiment commencez à avoir de l'audace et à commencer à rentrer dans ce que Dieu a pour vous. Là, il y aura un phénomène d'aspiration qui va se vivre là. Déjà hier, on commençait à sentir ça. On ne maîtrise pas la situation. J'aimerais vous dire, au niveau des responsables de Josué, on aurait pu choisir de rester ici bien tranquille. On ne maîtrise pas la situation, mais on se sent poussé par Dieu. C'est comme s'il nous mettait un coup de pied derrière, là, go, maintenant, tu vas en face, tu as grandi. Et on prie, élargis nos cœurs, Seigneur. Et il commence à élargir, on dit, mais Seigneur, au secours, comment on va faire ? Et bien voilà. Et bien, moi, je peux vous dire qu'il nous bouscule, et s'il nous bouscule collectivement, bien sûr, individuellement, il le fait aussi. Voilà un peu les ingrédients que l'on peut trouver dans le livre de Josias. On continuera encore dimanche prochain le dernier pan de ce réveil, en accentué en particulier par la célébration de la Pâque, où il y a tellement de richesses. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette réforme de Josias qui nous montre les principes de recherche de l'éternel, de complémentarité des ministères, de soumission à ta parole, de processus de purification intérieure qui amène une purification extérieure, de processus de réforme d'abattre les idoles dans le pays, et ça commence par les idoles dans nos vies. Merci pour cet ordre, cette organisation que nous voyons, et nous disons, aide-nous Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te laisser bâtir ton Église glorieuse, sans tâche, ni ride, et que vraiment le bon parfum du Christ soit manifesté au milieu de nous. Seigneur, je te loue pour ce corps, pour chacun ici. Et je dis vraiment, ravive les rêves de chacun. Et qu'un Josias qui voyait son pays transformé, nous puissions le voir, Seigneur. Et fais de nous des instruments pour que nous puissions voir cela. Les rêves que tu as mis, les rêves ici qui sont au milieu de nous. Je dis que l'Esprit de Dieu souffle et ravive ces rêves. Et que l'organisation nécessaire accompagne les rêves et les projets de Dieu. Seigneur, merci pour le sentiment de famille que tu veux faire grandir et les liens fraternels que tu veux vraiment tisser beaucoup plus fort avec toi, les uns avec les autres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voilà, soyez bénis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tabernacle. Préparez-vous avant ce tabernacle. On veut passer 4 heures devant Dieu dans la louange, faire ce qu'il veut. Si c'est l'intercession, c'est l'intercession. Mais ici, il y aura un autel où il y aura un bon parfum.